franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
Vous revenez ce matin d'abord sur l'assassinat de chrétiens coptes vendredi dernier en Égypte.
Le massacre de 29 chrétiens sur une route de Haute-Égypte. L'envoyé spécial du Figaro, Géna Lebras, a recueilli les témoignages des premiers villageois arrivés sur les lieux du crime, alertés par les appels affolés des victimes. Un fils appelle sa mère. « Maman, aide-nous, ils sont en train de nous tuer ». La famille saute dans une voiture. « Quand on est arrivé », raconte-t-elle, on a trouvé un camion de police garé au début du chemin qui mène au monastère, le monastère Saint-Samuel, où étaient attendus ouvriers et fidèles. Les policiers nous ont dit « N'y allez pas, ça tire ». On leur a répondu « Ce sont nos maris, nos fils là-bas, vous voulez qu'on les abandonne ». Ce sont donc eux qui arrivent sur les lieux, ils montrent les photos des corps traînés dans le sable, face contre terre, dans un sang déjà noirci par la chaleur de mai. Une femme cachée sous un siège de bus raconte les terroristes qui exigent des chrétiens qu'ils récitent la profession de foi musulmane, qui les abattent un par un, puis qui tirent à l'aveugle sur les femmes et les enfants. Douleur, colère, car quand ils retrouvent les victimes, aucun policier ne s'est encore aventuré sur la scène de l'attaque. Personne n'a appelé d'ambulance. Ce bastion chrétien d'Égypte est habitué aux violences sectaires et aux règlements de compte entre voisins de confessions différentes. Mais là, c'est la première fois qu'une tuerie de masse est revendiquée par l'organisation de l'État islamique, écrit la journaliste. Alors, l'État du maréchal Al-Sissi protège-t-il vraiment les chrétiens de son pays ? Les familles des victimes doutent. De quoi faudrait-il remercier Al-Sissi, au juste lâche une veuve, de bombarder la Libye pour se venger ? Mais les criminels sont bel et bien d'ici. Notre pays est rempli de terroristes. La colère qui prend le pas sur la douleur chez les Coptes d'Égypte.
En France, la moralisation de la vie publique au centre des débats.
Alors que le Parisien aujourd'hui en France révèle qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour abus de confiance autour de 19 députés européens soupçonnés d'avoir embauché fictivement des assistants parlementaires, et ce sur dénonciation d'une eurodéputée du Front National, le cas Ferrand, qui n'a pas encore tout à fait tourné à l'affaire Ferrand, continue d'être la cible d'attaques politiques, à droite comme à gauche. Alors à lire ce matin dans Libération l'article de Luc Levaillant, Richard Ferrand ou la moralisation boomerang. C'est la fable de l'arroseur arrosé, écrit le chroniqueur. Pendant la présidentielle, Ferrand faisait le métier avec gourmandise. Il canardait les facilités de Fillon et les absences de Pénélope. Il ne faut pas s'étonner si le boomerang lui revient en pleine poire. Les cas Fillon et Ferrand n'ont rien à voir. Et la justice devrait cette fois s'abstenir, mais qu'importe, la machine hygiéniste est lancée, dit-il. Elle est censée laver plus blanc que blanc, et en fonction essorage, les nettoyeurs doivent avoir les cuisses propres. Viendra le temps d'une république sacerdotale, met-il en garde. Les candidats vont devoir se courber sous les fourches caudines de la vertu, et tant pis si cela entraîne le règne des dévots fous de pureté. De la difficulté de se présenter en parangon de la vertu sans être soi-même vertueux à 150% au moins. De la difficulté aussi de trouver la limite entre blanc et plus blanc que blanc.
François Baroin, pour Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, il y a une affaire ou il n'y a pas d'affaire ?
Écoutez, moi je suis attaché à la présomption d'innocence et au respect de cette présomption d'innocence, et on a beaucoup souffert dans l'affaire Fillon, donc ce que je veux dire n'a aucun esprit de revanche sur quoi que ce soit, sous quelque forme que ce soit. Mais évidemment, c'est une affaire. Naturellement, la presse travaille, des journalistes d'investigation révèlent jour après jour. Ce que je trouve assourdissant, c'est le silence du garde des Sceaux sur ce sujet depuis...
François Bayrou,
depuis une semaine. Bien sûr qu'il y a une affaire, on connaît la suite de l'histoire et sa position va très vite devenir intenable.
En quoi François Bayrou serait-il amené à proposer une réaction à cela ? Il devrait donner des instructions à la justice ? Je ne comprends pas.
Le garde des Sceaux, il est responsable quand même du cadre général. Il est en train de préparer une loi et ce sera le premier texte de moralisation de la vie publique, d'ailleurs, qui va porter sur en particulier sur l'interdiction de pouvoir se présenter.
C'est François Bayrou qui devrait dire si Richard Ferrand est justiciable ou pas.
Je pense que le garde des Sceaux, il a à s'exprimer, il est complètement muet et je pense qu'il doit sortir de son silence sur ce sujet, sur les révélations. Attendez, si vous voulez qu'on rentre dans le détail et qu'on aille un peu plus loin dans l'affaire Ferrand, il y a quand même des sources d'interrogation. Vous avez un bâtonnier avocat hier interrogé par vos confrères du Parisien qui met en lumière les doutes alors qu'il est au cœur de l'histoire sur la réalité de la sincérité du montage.
Et que ce bâtonnier témoigne 12 ans après sans avoir saisi la justice, ça ne vous trouble pas?
Si, bien sûr, tout ça, mais tout ça est troublant. Donc, puisqu'il y a un trouble, et puisqu'on veut la clarté à tous les niveaux, et que M. Ferrand, c'est pas l'enfant trouvé au pied de l'église. M. Ferrand, c'est juste le secrétaire général de En Marche, qui a fait campagne pour une large part dans le recrutement des candidats qui se présentent aux législatives autour de la transparence et de la sincérité. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des questions. Moi, je n'apporte pas de réponse. Je suis pas juge, pas magistrat.
Non, vous êtes avocat.
Mais je suis avocat.
Quel pourrait être le délit, alors? Quel pourrait être le délit reproché à Richard Ferrand?
Le dire ainsi, c'est déjà aller un peu plus loin que l'expression que l'on attend en ce moment du garde des Sceaux sur ces sujets précis.
Bon, alors c'est au garde des Sceaux, mais je...
J'ai quelques idées, mais je ne vous les dirai pas.
Vous n'êtes pas pour la suppression du cordon entre la chancellerie et...
Je pense qu'il faut là pour le coup, je pense qu'il faut une politique pénale qui soit adaptable sur tout le territoire et dans tous les sujets. Je pense en revanche que sur ce sujet-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce silence est assourdissant et que ça va monter.
Dans la presse également ce matin, Hélène Jouan, de la difficulté aussi à faire campagne pour les législatives.
Il y aurait presque un glossaire à écrire sur les expressions qui fleurissent et qui disent à elles seules la difficulté des candidats socialistes et républicains à se positionner vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Le socialiste, Stéphane Le Foll, dans une interview à Libération, reprend à son compte votre terme et celui de Jean-Pierre Raffarin. Il faut être constructif, dit-il à son tour. Alors ça veut dire qu'il se situera ou dans la majorité ou dans l'opposition. C'est plus compliqué que ça, affirme-t-il. Il n'y aura pas une mais des majorités différentes selon les sujets. La candidate Les Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet, estime elle aussi que cette question de majorité est un peu old school finalement. « J'ai toujours été dans des choses plus alternatives que cela », dit-elle. Enfin, le député LR de la Drôme, Hervé Mariton, dans Les Échos, revient lui sur l'un des points angulaires de votre campagne, François Baroin, la hausse de la CSG. Mais alors lui, c'est pour dire si elle consiste à faire contribuer des retraités aisés, ce que tout le monde pense devoir faire mais que personne n'ose dire, eh bien c'est plutôt courageux. Franchement, c'est pas simple de faire campagne avec tout ça.
Non. Vous me permettez, pardon, je casse un peu le schéma, non?
Vous avez le droit de réagir.
Je peux réagir. Un retraité avec la hausse de la CSG annoncée par En Marche à 1,7 qui gagne 1 500 € va payer 300 euros d'impôts supplémentaires. C'est d'ailleurs qu'on est riche aujourd'hui à 1 500 € quand on était sous Hollande à 4 000 €. Ça fait quand même réfléchir.
Les propos de Jean-Luc Mélenchon accusant Bernard Cazeneuve de s'être occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse commentés dans la presse ce matin.
Guillaume Goubert y consacre son édito de la Croix. La remarquable campagne de Jean-Luc Mélenchon restera l'un des éléments marquants de la présidentielle. Son talent d'orateur, son humour, tout comme sa capacité à porter le souci de la justice sociale et environnementale ont impressionné. Mais l'élan s'est brisé au soir du premier tour et Jean-Luc Mélenchon semble en garder beaucoup d'amertume. Sa campagne pour les législatives est marquée par des propos emportés et blessants. La méchanceté en politique est un parti hasardeux, met-il en garde. Plus virulent sur le site de challenge.fr, Bruno Roger Petit estime que les accusations portées sur Bernard Cazeneuve révèlent le tournant gauchiste et sectaire de la France insoumise, bien loin, dit-il, de la campagne hugolienne de la présidentielle. En défense, maintenant, Claude Askolovitch sur Slate.fr explique-lui que Jean-Luc Mélenchon ne fait que de la politique en maniant de telles attaques. Dans son ballet avec Cazeneuve, il réinvente une figure archétypale, la gauche rouge, qui oppose ses morts à la gauche du gouvernement, traîtresse gardienne de l'ordre social. Et après tout, si Cazeneuve n'est pas un assassin, écrit-il, et si Mélenchon manque de modération, cela ne clôt pas l'histoire de la mort de Rémi Fraisse. Askolovitch, qui dans son article essaie de creuser au plus profond de la psychologie et des convictions politiques de Jean-Luc Mélenchon pour justifier ses propos.
On termine en bref.
Une préférence régionale à l'emploi en Corse, portée par le président nationaliste de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, est signée le 24 mai par plusieurs acteurs économiques locaux. Elle prévoit qu'entre deux propositions pour un emploi, eh bien, à compétences suffisantes, les résidents corses seront favorisés. Le préfet de Corse pose la question de la légalité d'un tel projet, nous dit ce matin le Figaro Echo. Talamoni parle lui déjà de menace de la part du préfet, mais MEDEF et CGT continuent de défendre la compétence égale et non la compétence suffisante, même en Corse. Et puis on termine par un PDG qui quitte son poste, mais pas son salaire. Mieux, il l'augmente. Article de l'Opinion qui détaille les conditions de départ de Maurice Lévy de la tête de Publicis. Le flambeau est transmis demain à Arthur Sadoun. Maurice Lévy ne siégera plus qu'au conseil de surveillance du groupe, mais gardera néanmoins 2,8 millions d'euros de rémunération par an, beaucoup plus que la moyenne d'un patron non exécutif en France. Laver plus blanc que blanc, vieux slogan publicitaire moqué par Coluche, mais ce n'est pas forcément un mantra pour tout le monde.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse.